Radio Notre-Dame, la vie prend un sens. En quête de sens, Léo Potier.
Embauche-t-on différemment un salarié en fonction de sa religion? C'est la question de la discrimination dans l'emploi qui est posée sur une caractéristique aussi intime qu'est l'appartenance religieuse. C'est donc une question sensible dans laquelle il va falloir mettre du sens ce matin. Discriminer en fonction de la religion, c'est en tout cas une piste soulevée par l'étude de Marianne Valfort, maître de conférence à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et spécialiste de la discrimination sur le marché du travail. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour à vous Marianne Valfort. On aura l'occasion de discuter des enseignements de votre travail en lien avec l'Institut Montaigne. On accueille également Hubert Mézin, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes ce que l'on appelle un chasseur de tête, une personne qui démarche des salariés afin de faciliter leur recrutement par vos clients. On sera rejoint tout à l'heure par Jean-François Madieu, professeur à l'Université Paris 1, mais aussi sociologue et président fondateur de l'Observatoire des discriminations. Merci en tout cas à tous d'être présents aujourd'hui. Quel impact a la religion sur le recrutement? Notre standard est ouvert à toutes vos questions, chers auditeurs. Appelez-nous 01 56 56 44 00 ou laissez-nous un message sur notre mail en quête de sens @radionotam.com. Alors avant de tomber sur les conclusions de votre étude, toujours en lien avec l'Institut Montaigne, Marianne Valfort, commençons par le début, la genèse de ce projet, où commence-t-elle?
La genèse de ce projet commence avec l'idée assez répandue selon laquelle les discriminations à l'embauche seraient principalement en France une question de minorité visible, ce qui signifie une question qui relative à la couleur de peau des personnes candidates à un poste. Des enquêtes de l'INSEE et de l'INED ont ainsi montré que des Français d'origine non européenne ont une probabilité beaucoup plus forte que des Français d'origine métropolitaine de déclarer avoir subi des discriminations au cours des 5 dernières années. Et lorsqu'on les interroge sur les raisons de cette discrimination, elles avancent principalement à la couleur de peau, loin devant l'âge et le sexe. Ce qui laisse penser que la discrimination, encore une fois en France, est principalement un problème de minorité visible. Mais dans le même temps, il y a eu un testing sur CV qui a été mené en parallèle de cette enquête INSEE-INED, un testing qui a été conduit en interne par le groupe Casino et qui a montré qu'un Français d'origine non européenne est certes systématiquement discriminé par rapport à un Français d'origine métropolitaine, mais au sein de ce groupe de personnes d'origine non européenne, c'est l'origine maghrébine qui est la plus fortement discriminée. Ce qui laissait supposer que l'appartenance à une religion minoritaire dans notre pays était un facteur supplémentaire de discrimination et que potentiellement, c'était la religion supposée de ces personnes d'origine maghrébine qui posait principalement problème aux recruteurs.
Mais ça n'avait pas été en tant que tel prouvé par des études auparavant?
Absolument pas. Et donc, avec l'Institut Montaigne, on a voulu savoir si, dans le cadre d'une recherche d'emploi, une personne pouvait être discriminée simplement parce qu'elle est perçue comme appartenant à une religion minoritaire, à savoir le judaïsme et l'islam, et uniquement pour cette raison.
Donc, vous avez eu l'idée donc, de monter une étude. Combien de temps elle a duré, cette étude?
Elle s'est étalée sur un an. Elle a consisté, en fait, à mener donc ce qu'on appelle un testing sur CV. Un testing sur CV, ça consiste à répondre à des offres d'emploi bien réelles via des candidatures fictives qui présentent des parcours scolaires et des parcours professionnels absolument équivalents et des candidatures qui diffèrent en fonction d'un seul critère dont on veut savoir s'il va influencer la décision de recrutement de l'employeur. Et nous, nous sommes intéressés sur le critère d'appartenance religieuse. Donc nous avons répondu sur un an à 6200 offres d'emploi sur toute la France.
Ce qui 6231 CV en
exactement, ce qui est un testing sur CV d'une ampleur sans précédent. Et nos candidats fictifs, en fait, sont des Français issus du même pays d'origine, le Liban, qui présentent, encore une fois, des parcours scolaires et professionnels absolument équivalents. La différence entre ces candidats, c'est la religion perçue, leur appartenance religieuse perçue par le recruteur. Et cette appartenance religieuse, nous la signalons via trois indications dans le CV des personnes. Les deux premières indications ont trait à la tradition religieuse de ces personnes, c'est-à-dire à la religion qu'elles ont héritée, à la culture religieuse qu'elles ont pu hériter de leur famille, leurs parents.
Pour des candidats perçus comme catholiques, juifs ou musulmans.
Voilà, donc ces deux premières indications de tradition religieuse se caractérisent par le prénom des personnes. Nous avons Michel et Nathalie pour les catholiques, Dove et Esther pour les juifs et Mohamed et Samira pour les musulmans. Le deuxième marqueur de tradition religieuse est lié, lui, au collège confessionnel que ces personnes ont pu fréquenter à Beyrouth, au Liban, lorsqu'elles y étaient encore. Donc collège confessionnel catholique Notre-Dame de Nazareth pour les catholiques, collège confessionnel musulman Amilié pour les musulmans. Mmh. Concernant les juifs, il n'y a pas réellement de collège confessionnel juif au Liban. Nous avons donc introduit comme marqueur de tradition religieuse la langue maternelle de ces personnes. Nous avons insisté sur le fait que ces personnes, en plus de l'arabe, qui est langue maternelle pour tous nos candidats, maîtrisent également, ont également l'hébreu comme langue maternelle. Donc ça, ce sont les deux marqueurs de tradition religieuse. Et puis nous en avons introduit un troisième qui, lui, a trait à l'implication, l'engagement associatif, la pratique religieuse à proprement parler de ces personnes. Elles sont actives, hein, elles sont des pratiquants et elles sont actives dans des associations de scoutisme confessionnel. Donc associations de scoutisme catholique, scout et guide de France pour les catholiques, musulmane, scout musulman de France pour les musulmans et juive, éclaireuse, éclaireur israélite de France pour les juifs.
Ce qui est assez différent pour vous, Hubert Mézin, puisque de toute manière, là, les personnes que vous trouvez pour vos clients en tant que telles ne vous ont pas envoyé leur CV.
Les personnes ne nous ont pas envoyé leur CV, on les chasse. Donc après, c'est une,
démarche différente.
Démarche différente. Sur le fond, encore une fois, nous, le travail se fait plus en amont, puisqu'on est amené à répondre à un besoin du client. Donc j'allais dire, cet élément du CV n'intervient qu'après un descriptif de poste. Et c'est d'ailleurs notre métier. Sur le fond, c'est de faire correspondre un candidat à un descriptif de poste et donc ne pas engager quelques principes ou quelques, j'allais dire, pensées ou en tous les cas discrimination que ce soit. Puisqu'on cherche simplement la corrélation qu'il peut y avoir entre un candidat et un poste.
Et le poste.
Et aucun élément extérieur.
Mais ça vient aussi peut-être du fait que vous ne recrutez pas peut-être dans le même domaine que Marie-Anne Valfort a recruté lorsqu'elle a envoyé, enfin en tout cas votre équipe a envoyé des CV. Dans quel milieu recrutez-vous en termes d'études?
Nous, on recrute, alors chacun, chaque cabinet a un petit peu sa spécialité.
Évidemment.
Chaque consultant a également sa propre spécialité, son niveau de poste. J'allais dire, quel que soit le niveau de poste, et c'est là où on pourra en reparler tout à l'heure de la formation des recruteurs, quel que soit le niveau de poste, le process, la méthodologie ne change pas. En soi, quel que soit le niveau de poste, on répond à un descriptif de poste, à un besoin qu'a l'entreprise.
Vous êtes convaincu que ce n'est pas une histoire de niveau d'études, hein?
De niveau d'études du candidat?
Du candidat.
Certainement pas. Certainement pas.
Vous avez envoyé des profils d'excellence aussi pour vérifier certaines choses durant votre étude, Marie-Anne Valfort, on va y revenir. Ce que j'aimerais savoir, c'est le nombre de CV, 6231 CV envoyés, est-il un chiffre suffisant pour avoir une étude complète et représentative de la situation de la discrimination en matière de religion à l'embauche en France?
Absolument. Enfin, ce qui comptait, c'était que nos différents profils de candidature, et je vais expliquer en quoi ces différents profils consistaient, puissent être envoyés à au moins 200 offres d'emploi différentes chacun. Donc nous avons 30 profils différents qu'on nous avons envoyés à un peu plus de 200 offres d'emploi chacun, ce qui nous donne ce chiffre de 6230 candidatures envoyées et 200 offres d'emploi traitées par type de profil. C'est statistiquement suffisant pour être sûr que les écarts que nous mesurons ne sont pas liés au hasard.
Donc on peut s'appuyer dessus.
On peut s'appuyer dessus de manière très, très confiante, oui.
Alors vous avez effectivement détaillé votre méthode pour suggérer l'appartenance religieuse, le degré de pratique de vos candidats, c'est-à-dire Dove et Esther pour les juifs, Michel et Nathalie pour les catholiques et Mohamed et Samira pour les musulmans. Peut-on être sûr par contre que l'affichage du prénom ainsi que indiquer certaines données, comme vous l'avez rappelé, l'éducation dans un collège confessionnel privé, mais aussi l'engagement associatif est un élément suffisant pour juger de la religion d'une personne et du degré de pratique de cette religion?
Mais en tout cas, ça commence à faire beaucoup de marqueurs. Hein. Le fait d'être engagé dans une association de scoutisme confessionnel laisse quand même supposer une pratique religieuse relativement active. Le fait d'avoir fréquenté un collège confessionnel qui est libellé dans le CV comme collège confessionnel bilingue, français bilingue, catholique, Notre-Dame de Nazareth, c'est quand même un marqueur extrêmement fort. Donc oui, tous ces signaux, en tout cas ces signaux ont été perçus comme représentatifs représentants des affiliations différentes selon nos différents profils de candidats, puisque les taux de réponse entre ces candidats sont substantiellement différents. Donc les signaux ont visiblement été perçus comme tels par les recruteurs.
Mais une personne qui est effectivement issue d'une tradition familiale, par exemple pour nos auditeurs catholiques, ne veut pas forcément dire que l'enfant, plus tard, et l'adulte qui deviendra catholique pratiquant ou catholique laïque. Il peut y avoir une conversion aussi entre-temps.
Absolument, mais ce n'est pas ce qui apparaît dans le CV des candidats, en tout cas. Ils sont impliqués dans une association de professionnels de scoutisme qui correspond à leur tradition religieuse. Donc nous ne sommes pas dans l'étude de l'impact de la conversion sur l'accès au marché du travail.
Oui, absolument. Là, c'est la question que j'essaie de savoir, c'est à quel point peut-on révéler le caractère religieux d'un candidat au travers d'un CV ? Ce qui est un des points centraux, en tout cas, de votre étude, puisque ça a été votre moyen privilégié pour justement l'afficher.
Oui, l'objectif, c'était encore une fois de savoir si un Français d'origine maghrébine qui, par son prénom, par son nom, est spontanément associé à l'islam, en général par les recruteurs, est-ce que le fait d'être associé à l'islam est un facteur pénalisant pour son insertion sur le marché du travail. D'où la conduite de ce testing qui vise à isoler spécifiquement le facteur religieux comme entrave potentielle cet accès au marché du travail.
Ok, donc on va plonger dans les résultats, mais avant, j'ai encore une question pour vous, Marine Valfort, et d'ailleurs j'en ai encore plein d'autres aussi qui vont suivre après. Et y a-t-il un milieu professionnel, un niveau d'études que vous avez ciblé en répondant aux offres d'emploi?
C'est un niveau d'études élevé en fait, puisqu'on est sur des candidats qui ont Bac plus 2, ce sont des candidats titulaires de BTS qui, en 2013-2014, avaient déjà 4 années d'expérience à leur actif, qui en fait, depuis qu'ils étaient sortis de l'école, avaient enchaîné les CDD, donc ce sont des profils de bonne qualité. Bac plus 2, on n'est pas sur des profils pas diplômés ou niveau peu diplômés. On ne sont pas sur des profils de CAP.
Dans une logique licence master doctorat, le master pourrait être considéré comme plus important qu'un bac plus 2, par exemple.
Bien sûr, mais il y a peu de personnes qui affichent déjà en France un niveau BTS bac plus 2. C'est pas la majorité des personnes diplômées, fraîchement diplômées en France.
Donc main d'œuvre en tout cas qualifiée, ça c'est sûr.
Main d'œuvre qualifiée qui candidate dans un secteur qui est celui de la comptabilité. Donc ils vont candidater en tant que secrétaire comptable, assistant comptable ou comptable. Nous avons choisi ce secteur pour deux raisons. Premièrement, c'est un secteur qui est peu sensible aux fluctuations de l'activité économique, ce qui nous garantissait que ce secteur, ce métier allait continuer à générer un nombre d'offres d'emploi soutenues en dépit de la période de crise que nous traversons, ce qui est une condition extrêmement importante pour pouvoir mener un testing de qualité. Et deuxième motivation derrière ce choix de se concentrer sur le métier de la comptabilité, c'est que c'est un métier qui est transversal à de nombreux secteurs d'activité. Donc, nous avons la garantie que nos résultats ne sont pas spécifiques à un secteur d'activité en particulier.
Hubert Mézin, vous chassez le comptable, vous, de votre côté ?
Alors, moi, personnellement, non. maintenant, je trouve assez intéressant ce que vous disiez, c'est-à-dire de pouvoir, d'avoir fait ce testing est assez intéressant, représentatif, je ne sais pas. La question que je me pose, c'est... tous les candidats que vous avez envoyés, qui ont envoyé leur CV, ont envoyé leur CV à la même entreprise pour le même poste.
Pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout.
Ma question est la suivante, c'est est-ce que vous avez par la suite vu la personne qu'ils avaient recrutée ?
Non.
Donc vous n'avez pas d'élément de comparaison entre la personne qui a envoyé son CV, donc la personne testée, entre guillemets, et la différenciation qu'il peut y avoir entre la personne recrutée. Autrement dit, je prends un exemple d'un poste de comptable. Peut-être que la personne qui a été recrutée, j'allais dire malheureusement dans un sens pour votre test, mais ça peut biaiser le test si la personne qui a été recrutée a finalement est une personne qui a près de 20 ans d'expérience, a fait un BTS. Donc finalement, j'allais dire à la même formation que votre candidat, mais potentiellement à 20 ans d'expérience et pour la même rémunération. Ça biaise potentiellement, et j'allais dire c'est un coup de malchance, je viens croire, mais là-dessus j'aimerais comprendre.
En fait, ce biais-là ne peut pas exister dans notre étude. La raison, c'est que nous avons en tout 30 profils différents de candidats. Nous avons pour chacune des offres d'emploi qui ont été postées sur le site de Pôle emploi sur l'ensemble de la France métropolitaine, nous avons envoyé, sélectionné de manière aléatoire l'un de ces 30 types de candidatures et l'avons envoyé en réponse à cette offre d'emploi particulière. La sélection aléatoire des candidats garantit que les différences de taux de réponse entre ces candidats est uniquement imputable à la différence des contenus de CV de ces candidats. Elle ne peut pas être imputable à des différences de caractéristiques des employeurs, parce qu'encore une fois, nous sommes dans un tirage aléatoire. Donc les employeurs qui reçoivent les CV de Mohamed, les CV de Dove, les CV de Michel sont identiques en tout point du fait de ce tirage aléatoire des candidatures à chaque fois qu'une offre d'emploi est postée sur le site de Pôle emploi. Donc ça, c'est une technique qui est utilisée évidemment par les scientifiques pour éviter les biais que vous mentionnez.
Plongeons maintenant dans le résultat de votre étude. Elle a été largement commentée. Pour des candidats perçus comme laïcs, c'est-à-dire dans le sens de votre étude comme non pratiquants, c'est ça, puisque le terme laïque...
C'est un peu plus que ça. C'est un peu plus que ça. Les profils laïques, ce sont des profils de personnes qui affichent leur attachement à la laïcité. C'est-à-dire qu'elles vont présenter les mêmes marqueurs de tradition religieuse. C'est-à-dire qu'elles s'appellent toujours Dove et Esther, Mohamed, Samira et Michel et Nathalie. Elles ont toujours ce passé dans un collège confessionnel à Beyrouth, ou alors cette pratique, l'affichage de l'hébreu comme langue maternelle. Mais au niveau de leur association, de leur implication dans une association, c'est l'association laïque de scoutisme Éclaireuse Éclaireur de France qui est signalée, et non pas une association confessionnelle. Donc ce sont des personnes qui affichent leur attachement à la laïcité,
qui l'ont marqué à un moment de leur parcours.
Exactement.
Donc merci pour cette précision. 16,1% des catholiques sont recontactés comme perçus catholiques laïques, j'entends bien. 16,9% pour les personnes perçues comme de religion juive, et enfin 12,9% pour les candidats musulmans. Je vous vois aussi froncer les sourcils. Est-ce bien ça, un écart de près de 4% entre, par exemple, candidats catholiques et candidats musulmans en soi?
Donc, en fait, ce qu'on observe, c'est que sur nos trois profils de candidats, musulmans, juifs et catholiques, ce qu'on observe, c'est que les musulmans sont les seuls à gagner. Ce sont les seuls dont le taux de réponse augmente lorsqu'ils se présentent comme laïcs plutôt que pratiquants.
Alors ça, on va y venir un peu plus tard sur le taux de pratique. Moi, je pense.
Et l'inverse, ouais. Et l'inverse est observé chez les catholiques. Et ça, c'est un phénomène assez surprenant auquel on ne s'attendait pas. Les catholiques, en fait, perdent du terrain, ont des taux de réponse qui sont négativement impactés lorsqu'ils se présentent comme laïcs plutôt que pratiquants. Et ce résultat, en fait, concerne principalement les hommes catholiques. Concerne principalement les candidatures de Michel. Michel va voir son taux de réponse décroître de presque 70% lorsqu'il se présente comme laïque plutôt que pratiquant. Ça peut paraître surprenant. En même temps, lorsque l'on étudie les valeurs associées aux différentes religions, différentes études sociologiques ont montré que les catholiques affichent un attachement particulier aux valeurs de discipline, de respect de l'autorité, ce qui, dans les métiers que nous étudions, qui sont des métiers de support, peut être considéré comme un gage de discipline à des postes où les hommes sont considérés comme en moyenne plus difficiles à manager que les femmes, du fait du caractère de support de ces métiers. Donc ça peut expliquer que Michel gagne en fait à se présenter comme pratiquant plutôt que laïque. En tout cas, ça vient contre l'idée reçue selon laquelle en France, sur le marché du travail, la seule chose qui compterait, ce serait de gommer son appartenance religieuse. Ce serait cette idée que la visibilité religieuse est pénalisante pour les candidats, quelle que soit leur confession. Nous montrons dans le cadre de notre testing, premièrement, que lorsque les candidats affichent tous de la même manière, soulignent tous de la même manière leur appartenance religieuse, ils ne sont pas traités de la même manière. Donc la visibilité religieuse n'a pas le même impact négatif en fonction de la religion considérée. Et ce résultat est encore renforcé par cet impact de l'attachement à la laïcité sur le taux de réponse qui est très négatif pour les catholiques.
Alors c'est effectivement un des aspects qui saute aux yeux comme un coup de pied aux fesses, qu'on a l'habitude de dire, pour en tout cas des profils pratiquants, entre pratiquants et laïcs chez les catholiques, plus de chances d'être recrutés selon votre testing en affichant une pratique de la religion. Par contre, si on surveille les personnes, notre étude, qui ont le moins de chances de tirer leur épingle du jeu, si je le formule, il vaut mieux s'appeler Robert catholique pratiquant que Samir musulman pratiquant lorsqu'on cherche de l'emploi.
Absolument.
Alors pourquoi ?
C'est très clair. Eh bien, parce que les stéréotypes associés à l'islam en France sont très négatifs. Ils sont de deux natures lorsqu'on se penche sur les données d'enquête. Le premier consiste à associer l'islam à une religion extrémiste et le deuxième à une religion qui opprime les femmes. Et l'association de l'islam à une religion extrémiste semble très corroborée, très présente dans l'esprit des recruteurs, puisque, encore une fois, un un homme catholique, un homme musulman ordinaire, donc qui n'affiche pas de signal d'excellence dans son CV, va parvenir à quasiment gommer toute la discrimination dont il est victime lorsqu'il se présente comme laïque plutôt que pratiquant, ce qui signifie que un risque de pratique transgressive religieuse sur le lieu de travail lui est associé par le recruteur. Et on peut, on imagine bien que les événements récents, les attentats de janvier, les événements de Saint-Quentin-Fallavier avec l'assassinat et la décapitation d'un employeur par son salarié de confession musulmane, tous ces éléments-là renforcent sans aucun doute la discrimination que nous avons mesurée dans le cadre d'un testing qui, je le rappelle, est antérieur à ces événements. Nous avons fini de collecter les réponses des recruteurs en décembre 2014, donc juste avant ces événements tragiques de 2015.
Donc il est possible que la situation ait évolué
de manière beaucoup plus négative encore pour les candidats musulmans.
Ouais. Entendu. Hubert Mézin, le constat qu'évoque en tout cas Marie-Anne Valfort sur des candidats musulmans, est-ce que vous le percevez, vous, quand vous chassez des têtes par rapport à vos clients, c'est-à-dire les personnes qui vont employer les personnes que vous trouvez ?
Il y a plusieurs éléments, encore une fois, je m'attache à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que...
Évaluer la compétence par rapport au poste.
Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un chasseur de tête, un recruteur, aujourd'hui, quel qu'il soit, n'a pas pour vocation de juger de la religion ou de la personnalité, ou encore moins d'un caractère, j'allais dire extra-professionnel, d'un candidat. Notre métier aujourd'hui consiste simplement à répondre à l'adéquation un candidat avec un poste. Dans ce cadre-là, on va parler la structure de l'entreprise, on va parler de son aspect politique au sens professionnel du terme, donc de voir si le candidat est assez stratégique. La religion n'est pas un élément qu'on prend en compte. Dans ce cadre-là, si le candidat affiche clairement sa religion, affiche clairement ses pratiques sur son CV ou lors d'un entretien, il est évident que c'est un élément qu'on prend en compte, puisqu'on n'est pas là pour juger, encore une fois, du candidat, donc on n'est pas là pour juger de sa religion, pas juger sa pratique religieuse, mais on est là pour juger de l'adéquation que peut avoir ce candidat.
Quel impact va avoir cette pratique avec son travail ?
Ce qui compte, c'est pas uniquement l'affichage. Ce qui compte aussi, c'est que le français d'origine maghrébine, même s'il ne met rien sur son CV qui a trait à la religion, va être associé à une religion qui, d'après notre testing, pose clairement problème.
J'ai bien compris. Après, moi, je vais vous parler du terrain. Honnêtement, en tous les cas, personnellement, je ne l'ai jamais vécu. Je ne l'ai jamais vécu parce qu'il s'avère que des personnes de différentes origines, à la base des Français de différentes origines, peuvent avoir des compétences parce qu'ils ont commencé leurs études ailleurs qu'en France, supérieures à celles qu'une personne étant née en France qui naît en France peut acquérir ou a pu acquérir le long de ses études. Donc finalement, ça peut être aussi un élément, un bon élément de jugement, ou en tous les cas un bon élément de recrutement.
Il nous faudra encore aussi évoquer en deuxième partie d'émission la question des candidats perçus comme de religion juive également. Hubert Mézin, Marie-Anne Valfort, ne bougez pas, chers auditeurs, vous non plus. On marque une très courte pause et on revient juste après ça.
En quête de sens, 01 56 56 44 00.
Bonjour, ici Edith Walter, l'agenda musical. Je vous retrouve pour vivre la musique avec ceux qui la font. Qu'ils soient pianistes, violonistes, violoncellistes, flûtistes, clarinettistes, chefs d'orchestre, metteurs en scène. Je les reçois tous les vendredis à 16h. Ils vous parleront de leur prochain concert, de leur dernier disque, de l'opéra qu'ils vont diriger. Et ils vous diront aussi leur joie, leur espoir, leur solitude, leur réussite, leur passion, leur amour de la musique qu'ils souhaitent partager avec vous, ainsi que cette musique que nous écoutons ensemble.
L'agenda musical, tous les vendredis à 16h sur Radio Notre-Dame.
J'ai tout un week-end devant moi et j'aimerais bien en profiter.
Toi, tu vas avoir besoin du Petit Futé. Tu verras, c'est formidable. Tu trouveras toutes les infos dont tu as besoin sur les restos, les sorties, les hôtels et aussi les loisirs, les visites, les balades. Bref, tous les bons plans futés.
Mais c'est génial !
En plus, Petit Futé t'offre la version numérique du guide.
Le Petit Futé,
des bons plans
et tellement plus.
Retrouvez votre Petit Futé Paris chez votre marchand de journaux, librairie et grande surface et sur www.petitfuté.com.
plombier.com, bonjour.
Bonjour. Voilà, mes parents vieillissent et leur salle de bain devient inaccessible, voire dangereuse pour eux.
Pour sécuriser votre salle de bain, plombier.com vous propose une étude gratuite. Baignoire à porte, plein pied et bénéficiez jusqu'à 25% de crédit d'impôt. Plombier.com, le spécialiste du confort en toute sécurité, vous préserve de tous accidents domestiques. Alors n'attendez plus, appelez plombier.com au 0800 08 44 44 0800 08 44 44.
Plombier.com, plombier.com.
En quête de sens, Léo Potier.
Vous êtes bien de retour dans Enquête de Sens. Aujourd'hui, on essaye d'y voir plus clair dans la discrimination à l'embauche sur des motifs religieux. Toujours avec Marie-Anne Valfort, auteur d'une étude sur le sujet, co-réalisée avec l'Institut Montaigne. Toujours avec Hubert Mézin, recruteur de salariés pour le compte de grosses entreprises, un chasseur de tête évidemment. On a parcouru les premiers enseignements de votre étude, Marie-Anne Valfort. L'étude portée sur un testing par CV, en indiquant en tout cas la tradition religieuse du candidat sur les trois grandes religions monothéistes, en tant que telle, la chrétienté, la religion juive et la religion musulmane. Comment s'en sortent les candidats qui sont perçus comme appartenant à la religion juive, Marie-Anne Valfort ?
Alors, juste sur un retour sur les résultats généraux. Il apparaît que les juifs et les musulmans sont discriminés à l'embauche par rapport aux catholiques. Les hommes musulmans le sont particulièrement, c'est-à-dire que lorsque Michel a besoin d'envoyer 5 candidatures pour décrocher un entretien d'embauche, Mohamed, lui, doit en envoyer 20, ce qui est 4 fois plus, ce qui est considérablement supérieur. En d'autres termes, Mohamed est plus discriminé, et 6 fois plus discriminé en France que ne le sont les hommes afro-américains aux États-Unis par rapport aux blancs. Donc on est sur des ordres de grandeur qui font frissonner. Les juifs sont discriminés également, mais ils le sont dans une moindre ampleur, mais ils le sont. Et ça fait partie également des mauvaises surprises, des résultats de ce testing, puisque cette discrimination à l'égard des juifs n'était pas suspectée. Aucun testing sur CV, ni en France, ni à l'étranger, n'a étudié son existence avant ce testing mené avec l'Institut Montaigne. Et on a cette idée en France selon laquelle l'antisémitisme se cantonnerait à des actes antisémites, certes potentiellement extrêmement violents, mais isolés. Et l'idée que l'antisémitisme puisse se révéler par des comportements moins ouvertement hostiles, mais plus systématiques et susceptibles d'affecter le quotidien d'un plus grand nombre de juifs, était écartée, y compris de la part des personnes qui sont fortement impliquées dans la lutte contre l'antisémitisme. Par exemple, Michel Viviorca, l'année dernière, a publié un bouquin qui s'appelle « L'antisémitisme expliqué aux jeunes ». Et à un moment donné de son exposé, il écrit « Ce n'est pas parce qu'on est juif qu'il sera plus difficile qu'à d'autres d'accéder à un emploi ». Notre testing bat en brèche cette idée reçue. Et il est important de souligner que ce résultat d'une discrimination à l'embauche à l'égard des personnes perçues comme juives n'est pas le fait de recruteurs de culture musulmane. On a beaucoup insisté ces derniers mois sur la responsabilité des individus de culture musulmane en France dans le maintien et le renforcement de stéréotypes antisémites. Nous, nos recruteurs sont à 95% d'origine française.
D'origine française, en tout cas.
À travers le prénom et le nom des recruteurs auxquels les candidats devaient faire parvenir leur candidature.
Alors effectivement, il y a une différence en particulier entre Michel et Dove, vos candidats. Michel envoie 5 CV pour espérer décrocher un entretien d'embauche, alors que Dove en envoie 7. C'est quand même incomparable par rapport à Mohamed qui a besoin d'en envoyer 20. Mais on remarque effectivement une certaine différence. On est effectivement aussi rejoint par Jean-François Amadieu par téléphone. Bonjour à vous.
Bonjour.
Soyez le bienvenu dans Enquête de Sens. Vous êtes sociologue, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, comme Marie-Anne Valfort, le fondateur et président directeur de l'Observatoire des discriminations, observatoire que vous dirigez aujourd'hui. Une question pour vous, Jean-François Mathieu, la question de la religion comme élément de discrimination à l'embauche, est-ce que c'est nouveau ?
Oui, en fait, on avait déjà une indication sur la discrimination à l'égard des personnes musulmanes par rapport à des profils catholiques. C'était d'ailleurs un testing qui avait été réalisé, sauf erreur, par Madame Valfort il y a quelques années, avec des collègues américains. Le testing qui vient d'être réalisé est plus complet puisqu'il inclut pour la première fois, en effet, la question des candidats juifs. Et puis, il explore la question de la pratique plus ou moins intensive de la religion.
Et il inclut les hommes également.
Voilà, exactement. Mais le fait qu'effectivement il y ait une discrimination sur des femmes, par exemple musulmanes, en effet, avait déjà été exploré. Alors sur la discrimination à l'égard des personnes musulmanes, on avait déjà, comme vous l'avez rappelé, des indications dans la mesure où on savait que les profils d'origine maghrébine faisaient l'objet d'une discrimination très, très importante. Ça fait une dizaine ou une quinzaine d'années qu'on l'avait observé par rapport à d'autres types de profils. Donc on pouvait suspecter qu'en effet, avoir porté le prénom Mohamed pouvait être plus discriminant.
Donc la question des nouvelles, et puis sans rajouter un peu de poids dans cette question difficile, la discrimination par la religion n'est qu'une discrimination parmi tant d'autres, comme celle qui est liée au sexe, à l'âge ou encore par exemple à la corpulence. Mais bon, ça ce sont des autres sujets. Bon, on va quand même s'orienter vers des pistes, en tout cas de solutions. Marianne Valfort, vous en proposez dans votre étude, c'est le chapitre 4 de votre étude d'ailleurs, si je me rappelle bien. Plusieurs propositions pour la société, des propositions sociétales. Franciser le nom, créer une plateforme nationale de testing.
Je n'encourage absolument pas les personnes d'origine maghrébine à franciser leur prénom. Je dis juste que l'un des enseignements de nos testings sur CV, c'est que lorsque Mohamed Haddad se présente avec un prénom qui est moins spontanément associé à la religion musulmane, ça lui permet de multiplier son taux de réponse par deux, ce qui n'est pas du tout négligeable. Et moi, je n'encourage absolument pas les personnes comme Mohamed à franciser leur prénom. Je laisse les gens libres de faire ce qu'ils souhaitent, mais s'ils souhaitent le faire, il doit pouvoir le faire avec beaucoup plus de facilité administrative que celle auxquelles il est confronté actuellement. Voilà, donc je ne préconise pas la francisation des prénoms, je préconise juste la facilitation la procédure pour les personnes qui souhaitent le faire.
Sans gommer effectivement l'identité de la personne.
Absolument, je comprends tout à fait que Mohamed ne souhaite pas changer de prénom. Mais en revanche, s'il souhaite le faire, il doit pouvoir le faire facilement.
Créer une plateforme nationale de testing, c'est-à-dire de diffuser des enquêtes faites à coups de CV pour savoir quelle entreprise discrimine ou non.
Alors, ça c'est cette proposition n'est pas tout à fait ça. Cette proposition consiste en fait à rendre public les résultats des testings qui ont été menés de manière scientifique pour que les gens prennent la mesure du problème, pour qu'on sorte du déni, parce qu'il y a encore des personnes qui nient l'existence d'une discrimination à l'embauche à l'égard de minorités visibles et religieuses de notre pays. Vous évoquez vous, de votre côté, le lancement de testing non sollicité.
Non, c'est-à-dire concentrer dans un seul endroit une plateforme nationale qui va permettre de regrouper les données de testing afin d'avoir une meilleure idée, par exemple, pour un candidat, de savoir où est-ce qu'il va candidater et quelle est la politique, j'aime pas dire comme ça, mais une politique de discrimination dans l'endroit où il candidate. Hein. Attendez, je vais essayer de le retrouver.
Alors
dans
ça,
votre
ce sont des choses qui n'existent pas. La seule chose.
Ah non, c'est une proposition.
La seule chose que l'on peut, mais même au niveau de la faisabilité, la seule chose que l'on peut faire, compiler dans un même endroit, par exemple sur le site du Défenseur des droits, l'ensemble des résultats des testings qui ont pu être menés par des scientifiques au cours des dernières années, pour que on prenne la mesure du problème et qu'on sorte simplement du déni. Mais ces propositions, en fait, moi je les synthétiserai d'une manière plus générale. L'objectif, c'est de trouver des solutions contre les discriminations sur le marché du travail.
Alors on va y venir. Moi, je voulais qu'on passe par la piste sociétale tout d'abord. Observatoire du testing, ça serait pour vous, Jean-François Amadieu ?
Non, mais c'est peut-être une des propositions de Madame Valfort.
C'est une piste.
Ça a été évoqué par le ministre du Travail et puis dans la commission Skiberas il y a quelques mois. Je dirais que quand même, il y a eu beaucoup de communication depuis de nombreuses années sur un certain nombre de discriminations, qui sont d'ailleurs assez bien connues maintenant. Alors effectivement, il y a des gens qui sont dans le déni, mais je pense que l'heure est plutôt venue d'explorer les solutions, de mettre en place des solutions
aux problèmes posés,
plutôt que de multiplier les évidences sur le fait que effectivement il y a des discriminations.
Donc ne multiplions pas les évidences, Jean-François Amadieu. Bon, là on pourrait effectivement, et ça a déjà été fait, reparler de campagnes de lutte contre les discriminations et notamment contre les stéréotypes également. Bon, c'est encore sociétal. Bon, alors aventurons-nous maintenant sur la piste du travail, c'est votre rayon aussi, Hubert. Bermézin. Et il y a une proposition qui va assez loin, Marianne Valfort, en tant que telle, c'est la piste 8. Est-ce que vous pouvez la présenter ?
Oui, juste, je tiens à préciser que le contenu de l'étude n'engage que moi et que je ne parle pas au nom de l'Institut Montaigne qui ne porte pas les pistes de propositions que j'émets dans l'étude.
Donc vous le portez en votre nom ?
Je le porte en mon nom, absolument.
Alors allons-y.
En fait, beaucoup de personnes considèrent que sur le marché du travail, il est suffisant d'agiter la menace juridique, c'est-à-dire de rappeler que la discrimination est illégale, qu'elle est pénalement répréhensible. Mais cette menace juridique, elle est très peu crédible. Il est très difficile pour une personne de prouver qu'elle a été discriminée à l'embauche à raison de son origine ou à raison de sa religion. Alors, il se peut que la mise en œuvre d'une action de groupe, qui est apparemment imminente, pourra faciliter la démonstration de cette discrimination à l'embauche, puisque on imagine bien que un même groupe de candidats qui s'estiment victimes du même type de discrimination de la part du même employeur, ça constitue un indice un peu plus fort de son comportement discriminatoire qu'une action en justice dans laquelle se lancerait un candidat de manière individuelle.
Alors pour préciser pour nos auditeurs, l'action de groupe, c'est-à-dire le regroupement de plusieurs personnes dans une plainte collective.
Voilà, dans une plainte collective à l'égard d'un employeur en particulier. Mais on voit bien que cette action de groupe, elle ne peut être une réponse globale au problème de la discrimination à l'embauche, puisqu'elle ne s'applique qu'aux établissements de grande taille, ceux qui génèrent un volume d'offres d'emploi suffisamment élevé pour qu'une action de groupe puisse être menée. De nouveau, les TPE et PME seront en dehors des radars de la lutte contre les discriminations si on s'en tient à cette action de groupe. Et je tiens à préciser que dans le cadre de notre testing, en fait, 95% des offres d'emploi auxquelles nous avons répondu ont été émises par des très petites entreprises ou entreprises petites et moyennes, PME. Ces entreprises-là, encore une fois, ne seront pas concernées ou très peu par l'action de groupe. Or, notre testing montre qu'elles discriminent de manière massive.
Donc ça ne marcherait pas selon vous ?
Je pense que ça ne peut pas être la réponse globale. Alors après, il y a d'autres approches qui sont poussées par les entreprises. Mobiliser le sens moral des recruteurs, les former, leur apprendre à déconstruire leurs stéréotypes, c'est-à-dire leur apprendre à maîtriser leurs stéréotypes, à maîtriser cette tendance qui nous menace tous, qui est d'associer les gens qui ne nous ressemblent pas à des caractéristiques négatives, en tout cas de surpondérer les caractéristiques négatives au sein de ces groupes qui ne sont pas les nôtres, en faisant abstraction de tout l'enrichissement culturel que ces groupes pourraient nous apporter. Cet aspect formation est plébiscité par de nombreuses entreprises. Le gros problème, c'est qu'on n'a aucune idée de l'impact de ces formations sur le comportement des recruteurs. Ça n'a jamais été évalué et je ne note pas un empressement de la part des entreprises de se lancer dans ce type d'expérimentation et d'évaluation pour connaître l'impact effectif de ces formations.
Non, ça c'est pour vous, Hubert Mézin, chasseur de tête.
Absolument. Absolument. Il y a déjà plusieurs éléments dans ce que vous venez de dire. Le premier principe, c'est qu'aujourd'hui, quel que soit le recruteur, quel que soit le recrutement en tant que tel, la religion n'est pas censée être un élément qui apparaît par principe, parce que ça peut faire partie évidemment d'une vie personnelle. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la différenciation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc,
bien sûr,
mais c'est pas l'élément phare aujourd'hui que
mais
doit
Mohamed
apparaître.
Mohamed Mokraoui, ne serait-ce que par son prénom et son nom, sera systématiquement associé à une culture musulmane, tout comme Dove Cohen. Sera associé au judaïsme.
On rentre dans des éléments assez dangereux, comme on a pu le voir avec Ménard, etc. Donc là, c'est des éléments assez dangereux.
C'est le glissement
facile entre le nom et la religion.
Pas d'angélisme, mais pas non plus.
Pas d'angélisme, mais c'est des statistiques qui pour moi sont dangereuses. Le vrai principe.
Ça fait des années que les testings montrent que Mohamed Mokraoui est systématiquement discriminé par rapport à Jean-François. Elle l'est de manière massive beaucoup plus que des candidats, que d'autres candidats d'origine non européenne. Donc ça montre qu'il est associé spontanément
très bien,
à une religion particulière.
Bien entendu qu'il y a une discrimination et on est d'accord avec ça. Il n'y a pas de débat là-dessus, mais on ne va pas enfoncer des portes ouvertes. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a une discrimination. Maintenant, comment on répond à cette discrimination-là? Comment on y répond?
On parlait de sensibilisation et formation à l'égard des recruteurs.
La formation et la sensibilisation des recruteurs. D'abord, la première chose, c'est l'élément que j'évoquais tout à l'heure, c'était de dire qu'un candidat mettre sur son CV qu'il est de telle ou telle religion à travers différentes expériences, à travers différents hobbies ou à travers différentes implications associatives, fait qu'aujourd'hui, c'est un élément impactant pour lui professionnellement, puisque sur un CV, donc un élément professionnel, il veut le mettre en avant. Donc ça peut être un élément qui peut être pris en compte par le recruteur. Dans ce cadre-là, le recruteur doit avoir cette position de lier un descriptif de poste, donc émis par le client, à un candidat a un profil. Et aujourd'hui, le métier du recruteur, c'est celui-là. C'est celui de lier un profil à un descriptif de poste. Rien d'autre. Dans le cas où la religion apparaît, ça veut dire que c'est un élément important. Et donc, à partir de là, dans ces cas-là, lier dans ce cadre-là la religion, la pratique de la religion, les éléments qu'ils peuvent apporter, les différentes valeurs qu'on peut lui apporter, que peuvent lui apporter cette religion à ce poste. Puisque c'est un élément que le candidat, et non pas le recruteur, veut mettre en avant. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, la formation du recruteur, elle doit passer par deux choses. Elle doit passer par, évidemment, sa formation à lui, sa formation propre, donc c'est-à-dire cette capacité à pouvoir, lui, s'effacer, effacer ses propres idées, effacer ses propres, pratiques personnelles.
Peut-être pas forcément à la portée de tout le monde.
Vis-à-vis... Alors, c'est pas forcément à la portée de tout le monde qu'à partir du moment où vous ne liez le candidat qu'à un descriptif de poste. Si vous ne réglez votre recrutement que sur l'adéquation qu'a un profil à un poste, dans ces cas-là, votre personnalité, vous, votre propre pratique, ne rentre pas en compte. Moi, on m'a déjà demandé de recruter des personnes pour des métiers sur lesquels jamais, au grand jamais, je ne souhaiterais effectuer ce métier-là. On m'a demandé de recruter des métiers pour lesquels je ne suis pas compétent. Donc ça veut bien dire que je suis capable de m'effacer et d'effacer moi ma propre personnalité pour pouvoir recruter quelqu'un de compétent sur ces sujets-là. C'est le premier élément. Le second élément, c'est la formation du client également. Donc du client, ça peut être le client interne ou le client externe dans mon cas. Aujourd'hui, lorsqu'un client demande à un cabinet de chasse de tête ou en interne qu'il ne veut pas de femmes, qu'il ne veut pas de personnes.
Uniquement un mec et moins de 50 ans.
Exactement, cliché habituel. Il faut que le recruteur soit capable de refuser ce type de discrimination à l'origine. Donc il y a cet élément-là aussi de formation. Aujourd'hui, il existe énormément d'organismes à compétences égales ou autres, dont la plupart des cabinets sont signataires, dont certaines entreprises sont signataires, et on est formé à ces sujets-là. Et donc, c'est par le biais de la formation et non pas par le biais de CV anonymes, comme j'ai pu le voir, ou autre, que le problème se réglera. Parce qu'il faut qu'à travers, justement, cet effacement, on va dire, de la religion sur un CV, il faut aussi être capable de l'accepter. Parce que ça peut apporter, comme je vous le disais tout à l'heure, des valeurs, ça peut apporter énormément de choses et énormément de choses complémentaires au CV. Donc, c'est véritablement par la formation du recruteur que évidemment ce problème se réglera.
Alors, Marianne Valforge, toutes mes excuses parce qu'il faut quand même qu'on avance. Il y a quand même cette proposition que j'aimerais aussi discuter avec vous, tout aussi compris avec vous, Jean-François Amadieu. Je ne vous oublie pas. Alors effectivement, je voulais partir quand même sur le CV anonyme, mais je voudrais quand même qu'on parle de cette piste 8 que vous évoquez, notamment inciter tous les employeurs à recourir à des intermédiaires de l'emploi spécialisés dans le placement de candidats issus de minorités visibles, si possible à coup d'un système de subvention. Est-ce une forme de discrimination positive que vous proposez, je le rappelle, là encore en votre nom, Marianne Valfort?
Oui, tout à fait. C'est une forme de discrimination positive. Ça consiste donc en l'instauration d'une subvention à l'embauche pour les minorités visibles objectivement discriminées de notre pays. Subvention à l'embauche qui existe déjà sous d'autres formes pour corriger les inégalités sociales. La discrimination positive existe déjà.
Personne en situation de handicap.
personnes en situation de handicap, personnes peu ou pas qualifiées via les contrats, via les CUI, également les emplois francs qui ciblaient des personnes qui étaient des subventions à l'embauche pour des personnes issues de ZUS, quel que soit leur niveau de diplôme. Donc ces subventions, cette forme de discrimination positive existe déjà. Le problème, c'est qu'elle n'attaque pas le problème de manière frontale. Ce qui semble être une barrière extrêmement forte, c'est l'origine des personnes, leur association à une minorité visible ou alors à une minorité religieuse. Et donc, ces subventions à l'embauche, il serait bon de les décliner également sous forme de subventions à l'embauche à l'égard des minorités visibles objectivement discriminées de notre pays. Et il ne s'agit pas d'octroyer un avantage indu à ces populations. Il s'agit juste de rétablir une égalité de traitement ACV équivalent qui permettra d'inciter l'employeur ACV équivalent, encore une fois, à un peu moins discriminer Mohamed qu'il ne le fait, à rétablir une égalité de traitement qui, à ce jour, est très gravement bafouée en France.
Qu'en pensez-vous, Jean-François Madieu ?
Évidemment, peut-être que vous vous en doutez, mais cette proposition est assez polémique et on comprend que l'Institut Montaigne n'est pas souhaité l'assumer. En fait, je vais résumer la situation. Il y a une logique qui vient d'être exposée par le chasseur de tête. C'est une logique dans laquelle on dit maintenons la pratique française des candidatures dans lesquelles on a plein d'informations qui permettent de savoir si vous avez une pratique religieuse. Donc les candidats racontent leur vie, leur situation matrimoniale, s'ils sont aux éclaireurs, aux scouts, etc. Et puis ensuite, on va former les recruteurs qui, bien sûr, vont être très vigilants. Mais surtout, on considère, c'est un peu l'idée du CV citoyen, que toutes ces informations, c'est très bien et qu'on va en déduire des compétences des candidats, on va l'utiliser dans le recrutement. Alors, sur cette position-là, on voit qu'évidemment, elle conduit à des discriminations très importantes dans tous les sens, ce que tous les testiques montrent, et naturellement celui de Mme Valfort, on l'a vu sur la question religieuse.
Alors effectivement,
donc, c'est simplement, de formation, on va y arriver.
Alors je vous reprends sur ce que j'ai dit, j'ai du mal m'exprimer ou vous avez mal compris, c'est que je dis simplement que si la personne ne souhaite pas mettre ses informations, autrement dit, aujourd'hui 90% des CV que je reçois, c'est le cas. C'est-à-dire les personnes aujourd'hui ne mettent pas ces informations-là.
Voilà.
Parce qu'elles les mettent.
Mais il y en a plein qui n'ont pas besoin de les mettre pour être associés à une religion.
Attendez, à la fois. Jean-François Madieu, allez-y.
Non, je voudrais terminer. Donc, première position, le CV à la française, dans sa grande tradition, et de plus en plus d'ailleurs, comporte beaucoup d'informations. Un peu moins que dans les CV asiatiques, où vous avez par ailleurs la race, la religion, etc. Mais disons que le CV français.
Et moins que dans les CV américains.
Qu'on a énormément d'informations dans un CV français sur des tas de sujets. Bien sûr, on a la photo du candidat, bien sûr, on connaît son nombre d'enfance, etc. Bon, on sait plein de choses. Vous prenez un CV américain,
oui,
justement.
Absolument.
Vous n'avez rien de tout ça. Dans n'importe quel CV américain, il serait invraisemblable qu'on commence à mettre une photo, d'indiquer si on a été au scout ou aux éclaireurs, etc. Ni si on a des enfants, ni même son âge, etc. On n'a rien de tout ça. Donc, ça, c'est la position où on s'efforce d'être de donner le moins d'informations possible pour limiter les discriminations, par exemple, sur une base religieuse, c'est le sujet d'aujourd'hui. Mais donc, moins vous mettez d'informations, mieux c'est. Au fond, c'est la position qu'on appelle, de traitement à l'aveugle, ou si on préfère, avec juste les compétences. C'est ce qu'on fait dans une copie d'examen, tout le monde ici a passé un bac, a fait des études supérieures, a passé des concours. Et il y avait, bien entendu, et c'est la règle, je dirais, on essaie de minimiser les informations qui vont fausser. Personne ne sait si vous êtes juif, catholique ou musulman lorsque vous composez votre copie qui est cachetée. Et puis vous avez une troisième position. Donc vous voyez, première position, le CV anonyme, des auditions à l'aveugle, des copies cachetées. Ça c'est une première position, ou le CV à l'américaine. Deuxièmement, mettre le maximum d'informations. Puis vous avez troisièmement la position de Mme Valfort qui consiste à maintenir toutes ces informations. Et donc à ne pas faire du CV anonyme, mais à maintenir toutes ces informations sur les CV, donc on ne change rien, on garde la photo, l'âge, le sexe, et puis les gens peuvent raconter qu'ils étaient au scout. Et puis, troisièmement, on ajoute donc, ça c'est la position de discrimination positive, l'idée de la subvention avec des intermédiaires qui vont cibler les candidats issus de l'immigration, et on va donner des subventions aux employeurs qui recrutent ces candidats
en fonction de
compétences égales. Bon, c'est de la discrimination positive. Seulement, le problème principal, et c'est très simple, c'est que ça part de l'idée que en procédant à cette discrimination, on résoudrait le problème posé. Mais hélas, non. Par exemple, dans la solution
on en sait rien,
de Mme
Balfort,
la question juive n'est pas résolue. Parce que, comme elle l'indique elle-même dans son rapport, naturellement, les personnes juives pourtant discriminées ne bénéficieront pas de ces mesures, sauf si on imaginait qu'il y a un recensement en France et qu'on labellise les personnes juives ou les intermédiaires de l'emploi qui les sourcent.
Ouais, ça sous-entend
donc,
d'avoir une base de données, Jean-François Madieu.
Je voudrais ajouter que les Noirs antillais ou originaires de La Réunion ou de Mayotte, etc., ne sont pas non plus inclus dans le dispositif prévu par Mme Balfort qui s'appuie sur le pays de naissance, la nationalité. Donc c'est la question de la couleur de peau qui n'est pas résolue. Et puis surtout, je crois que le plus important, c'est pas ça, c'est que comment peut-on imaginer de traiter une discrimination en particulier en laissant de côté les motifs principaux de discrimination en France, parce que je voudrais quand même le rappeler ici, c'est quand même important, la religion n'est pas statistiquement la question principale concernant les demandeurs d'emploi en France.
Âge, sexe...
Car le motif principal de discrimination, c'est l'âge, être senior de plus de 55 ans. Il s'agit ensuite de l'apparence physique, par exemple l'obésité. Il va s'agir d'être le fait d'être une femme, par exemple, etc. Donc vous avez les sujets principaux...
C'est pas du tout cohérent avec les résultats de l'INED et de l'INSEE. Hein, ce que vous dites, hein, les discriminations sont essentiellement des problèmes liés à l'origine des personnes, en tout cas les personnes
Là, je m'appuie sur les études du défenseur des droits menées depuis 2 ans sur les demandeurs d'emploi.
Le critère principal de discrimination a trait à l'origine.
Non, mais là, vous êtes en train d'évoquer les études de l'enquête Théo, de l'INED, qui sont celles de tenants de la discrimination positive. Si vous prenez les études du défenseur des droits, elles sont sans ambiguïté. Donc, en fait, les discriminations principales ne sont pas celles-ci. Donc le problème, c'est quand on traite à coup de subvention un type de discrimination... de plus n'est pas le motif principal, on crée des injustices évidentes à l'égard de profils qui n'ont été inclus dans le dispositif. C'est pour ça que... c'est quand même un problème considérable.
Le problème de l'origine est un facteur essentiel de discrimination sur le marché du travail en France. Dans le rapport d'activité du défenseur des droits, il est bien rappelé que sur le marché du travail, c'est l'origine qui est le facteur principal de discrimination.
Non, pas du tout, parce que vous mélangez deux notions. Le défenseur des droits établit des statistiques sur le flux de réclamations qui arrivent au défenseur des droits, c'est-à-dire les gens qui effectivement lui écrivent parce qu'ils se plaignent d'un motif. Mais vous prenez par exemple la question de l'obésité en France, qui est un phénomène massif. Il se trouve que sur l'apparence physique en général, vous savez très bien que les gens ne réclament pas, ne se plaignent pas au défenseur des droits, parce qu'ils ont du mal à porter la preuve, parce qu'ils ne savent pas. Il en va de même pour les seniors. Mais en réalité, quand le défenseur des droits, lui-même, depuis 2 ans en particulier, a mené des enquêtes auprès des demandeurs d'emploi, dans la première enquête faite sur les demandes d'emploi en 2013, l'apparence physique est le premier motif. Donc si vous voulez, vous comprenez, on ne peut pas prendre comme indicateur simplement les plaintes qui arrivent au défenseur des droits. Il ne faut quand même pas tordre les fêtes à ce point.
Jean-François Madieu, si je vous suis bien, de toute manière, vous ne pensez pas raisonnable d'associer une campagne de discrimination, une forme de discrimination positive un critère. Jean-François Madieu, par contre, il nous reste 15 secondes, alors très rapidement, s'il vous plaît.
Je voudrais juste dire que dans la période, c'est jeter de l'huile sur le feu et dresser les communautés les unes contre les autres, ce qui me paraît extrêmement dangereux.
Alors c'est vous qui le dites, effectivement.
Continuons à ne rien faire, laissons pourrir la situation.
Faisons le CV anonyme.
Mais le CV anonyme, on sait très bien que c'est nul et non avenu, c'est absolument inefficace, hein. on le sait bien, ça a été démontré.
Alors effectivement, on est en 2006 et puis récemment abandonné. Malheureusement, Hubert Mézin, bon quand même, donnez-nous une petite lueur d'espoir quand même, s'il vous plaît, en 10 secondes.
Encore une fois, moi je maintiens que c'est par la formation et non pas en ayant la fameuse règle des 80-20, donc je prends 80% du paquet de CV anonyme et je les mets à la poubelle puisque j'embauche pas quelqu'un qui a pas de chance. Moi je suis très contre cette règle là, donc je suis contre le CV anonyme. Je pense que justement il faut que les gens soient fiers de ce qu'ils sont et fiers de leur différence.
Bon bah en tout cas il nous reste plus encore à évoquer cette question, le CV anonyme peut-être pour une prochaine émission. Merci à tous d'avoir répondu présent pour Enquête de Sens aujourd'hui. Marianne Valfort, Hubert Mézin et Jean-François Madieu, merci beaucoup. Enquête de Sens, c'est fini pour cette semaine, je vous retrouve dès lundi.
Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.